entre 23h et 4h, rôdant sur les immenses terre-pleins entre les voitures des Hollandais et les camions roumains, à la recherche du véhicule esseulé. Parfois un couple d'amoureux, un VRP en recharge d'énergie, et souvent un camping-car, petit havre de paix, chez soi transportable d'une famille voyageuse. Les enfants en pyjama, la maman dans les bras du papa, ils forcent la porte et entrent, tabassent le père, le grand-fils ou le frère, et violent la mère, la petite-fille ou la sœur. Puis ils repartent avec leur butin de vêtements d'enfants et de traveler's check. Leur ADN est inconnu des services. Le monstre a dû patienter. Il les veut. Il sait qu'avec eux, cela noiera les remords et la honte, et que la bête pourra se laisser aller. Des nuits entières à planquer, couchées dans l'herbe humide qui sent l'urine, ou sur le toit d'un bloc de béton servant de chiottes aux routes franciliennes. Le monstre a fini par remarquer que les violeurs passent d'une autoroute à l'autre, de l'est à l'ouest et du nord au sud, entre chacun de leurs méfaits, utilisant des sorties de chantier pour s'échapper. Cette nuit, il les a trouvés. Il se redresse et marche lentement vers l'immeuble. Au loin devant lui, la lumière d'une torche furette contre les murs des caves. Des tas de détritus, des restes carbonisés, une odeur de pourriture, de merde et de vomi qui pique et étrangle. Le monstre se sent bien. Au fond du couloir, la lumière a disparu. Une odeur d'essence, puis l'illumination d'un feu sort de l'entrée d'un box en même temps que des éclats de rire. Le monstre n'a plus que quelques pas à faire. Il ne pense à rien. Il respire les mouvements des hommes dans la petite pièce. Certains assis, d'autres debout à s'échanger une bouteille. Ils parlent une langue inconnue. Ils crieront dans une langue inconnue. Il entre. Les visages des quatre hommes se défont en une succession d'émotions. La surprise tout d'abord, puis une sorte d'incrédulité. Et dès que les premiers coups tombent, la peur, suivie de la terreur. La tige d'acier fracasse la bouche et la moitié basse du crâne du premier, la rotule du deuxième et les clavicules et cortex des deux derniers. Ainsi, ils ne peuvent plus bouger. Seulement gémir, hurler, tenter de fuir, s'échapper, survivre. S'ils tendent les mains, le monstre leur brise les doigts. S'ils se retournent pour ramper, il leur éclate les vertèbres une à une, de la nuque au coccyx. Le monstre en met trois hors d'état de vivre, sans les tuer. Ce ne seront plus des hommes, juste des légumes. Le dernier, il veut le finir à la main. Il s'agenouille devant lui, pose la tige d'acier et lève ses gants de moto noir. Puis il commence à frapper, cogner, écraser, détruire. Plus les coups tombent, plus le sang gicle sur sa visière, plus le monstre se détend. C'est le seul moyen, la méthode, et cela fonctionne. La bête se calme. Elle sent monter en elle le soulagement tant attendu. Non pas le plaisir, il n'y a aucun plaisir. Juste le bien-être de la douleur enfuie. Chapitre 1. Le lieutenant Raskolnikov dégagea les feuilles du visage de la morte. Le sang avait coulé et séché dans ses narines, formant comme des petits bouchons de cire rouge. Des croûtes sombres s'étaient formées sur ses yeux où se baladaient les fourmis. Malgré la boue et les feuilles qui recouvraient le corps, on reconnaissait les vêtements de Monial. Raskolnikov se tourna vers son supérieur. « C'est elle, la bonne sœur qu'on nous a signalée comme disparue le mois dernier. » Le major Dimitrovski sortit une Marlboro de sa poche de vareuse et l'alluma. Il souffla longuement la fumée en regardant la forêt alentour. Le soleil de midi se diluait dans le ciel blanc qui recouvrait ce coin de Tchétchénie. La plupart des arbres avaient perdu leurs feuilles. Le froid n'en était que plus intense, agressif et griffu, comme les branches noires qui les entouraient. Seuls les bûcherons et les chasseurs venaient par ici, et les patrouilles de l'armée tchétchène.
Une chance qu'il y ait eu des exercices militaires dans le coin. Avec le froid, la pluie, ça doit faire 15 jours qu'elle est ici.
N'attendant pas de réponse à sa déclaration, Raskolnikov s'agenouilla près du cadavre et posa son carnet sur la terre. Il palpa le corps, souleva la robe, remarqua les chaussures manquantes et s'attarda longuement sur la béance qui ouvrait la gorge de la jeune nonne.